Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Salut, c'est Xavier Yvon, nous sommes le mercredi 19 janvier 2022, bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près.
Vous venez d'entrer dans une zone oxygénée, vous pouvez ôter vos casques. Bienvenue au musée de la conquête de Mars. La visite guidée va durer 43 minutes, veuillez entrer dans la salle numéro 1. Devant vous, voici le tout premier modèle de fusée développé pour venir coloniser cette planète. Notez son caractère rudimentaire et la date sur la carcasse, 2022. Avancez maintenant vers la salle numéro 2.
Bon, je vais laisser les colons martiens à leur visite. Oui, cette scène est imaginaire, sauf pour la date. 2022 pourrait bien marquer l'histoire de la conquête spatiale, parce que ces prochains mois, pas moins de 3 superfusées doivent faire leur début avec tout le même objectif, envoyer des humains sur la Lune et au-delà, sur Mars. Quand on parle d'espace dans la loupe, il se précipite dans le studio. J'accueille Bruno Cotte, le chef du service science de l'Express. Salut Bruno.
Salut.
Et quand on parle de fusées et de Mars, on pense évidemment à...
Je pense que tu penses surtout à Elon Musk et SpaceX.
Voilà, le milliardaire investit dans de nombreux domaines technologiques, ça vous le savez. Mais à la loupe, on a un outil que lui ne possède pas. C'est notre téléporteur qui nous permet de nous rendre instantanément où l'on veut. Je le sors. Allez, viens Bruno, on va à Boca Chica, tout au sud du Texas. Voilà, alors ici, il fait chaud et humide, ça nous change. C'est assez plat, on voit la mer pas loin. Bruno, est-ce que tu peux nous expliquer où on est exactement ?
On est à quelques encablures de la frontière mexicaine, mais on est surtout sur la base de Boca Chica, qui est le site de lancement de SpaceX, dont la construction a débuté en 2015 et qui continue à s'agrandir à un rythme complètement fou, avec des usines de production, des entrepôts de carburant, des zones de test et évidemment des pas de tir. Si tu regardes un petit peu à droite, là, à l'extrémité, il y a le pas de tir originel de la Falcon 9, la Falcon 9. Mm-hmm. Un peu plus loin, là, sur l'autre côté, il y a une aire d'atterrissage, puisque la caractéristique des fusées de Musk, c'est d'être réutilisable et de revenir se poser quasiment au même endroit quand il ne les récupère pas en mer. Mais là, regarde, tourne un petit peu la tête. Oui, sur l'autre partie de la base, là, tu vois, il y a une immense silhouette. Ça, c'est le Starship.
Ce grand cylindre gris argenté, ça, c'est la nouvelle superfusée d'Elon Musk.
Voilà, c'est démesurément ça. Regarde, l'ensemble, c'est quelque chose comme 120 mètres de haut. Pour faire simple, c'est la plus grosse fusée jamais construite. Plus grosse que la fameuse Saturn qui a amené des astronautes américains à la surface de la Lune dans les années 70. Et Musk dit que ce Starship pourra mettre en orbite 100 à 150 tonnes, ce qui est complètement inédit. Enfin, si tu regardes un tout petit peu plus près cette fusée, tu vois, il y a déjà deux couleurs. En gris, là, il y a ce qu'on appelle le premier étage, c'est l'étage, c'est le Falcon Heavy. Lui seul, il fait 68 mètres de haut pour 9 de diamètre. En dessous, là, ça, je pense que tu ne les vois pas d'ici. Il y a ses moteurs. Il a quelque chose comme juste 29 moteurs. Ça, c'est aussi, ça, c'est jamais vu. L'étage tout en haut que tu vois au-dessus. Qui est peint en noir et qui a des toutes petites ailettes. C'est le vaisseau et c'est le vaisseau qu'on surnomme aujourd'hui Starship.
Mmh. Et là-bas, à côté, cette immense tour métallique, là, c'est quoi ?
Alors ça, c'est pas Godzilla, c'est Mechagodzilla.
D'accord.
C'est le dernier joujou d'Elon Musk. C'est une tour de 122 mètres de haut et qui servira au décollage, mais aussi à l'atterrissage du Starship. C'est un truc complètement novateur parce que c'est pas une simple rampe de lancement. Elle possède, si tu vois sur le côté, des petits bras.
Ça ressemble un peu à une grue.
Voilà. Ces bras, ils ont vocation à récupérer le premier étage, le gros étage du Starship, donc le Falcon Heavy. Pour faire simple, les Falcons, ils ont des jambes et ils viennent se reposer grâce à leurs jambes. Là, avec le Falcon Heavy, il faudrait des sacrées jambes. Et en plus, ça alourdirait beaucoup l'ensemble. Donc, les ingénieurs de SpaceX ont réfléchi à un autre système. D'où cette idée de faire revenir le Falcon à l'endroit où il est parti. Et juste avant qu'il touche le sol, grâce à ses gros bras, eh ben, il sera agrippé, attrapé.
Bon, avant de retomber dans les gros bras de Mechagodzilla, il faut qu'elle décolle, cette fusée. C'est prévu pour bientôt?
Ah ben, ça, c'est un peu la grosse question. Tout ce dont je viens de te parler reste dans le domaine du théorique. Cette immense rampe avec ses bras, ça n'a jamais été testé. Le Starship qui surplombe son Falcon Heavy, c'est-à-dire la fusée entière, pareil, ça n'a jamais été testé. Bref, un peu comme à son habitude, Musk va vite, il va très très vite, il va même trop vite pour les autorités américaines, parce que lui dit depuis 2 mois qu'il est prêt à tirer et il construit comme ça des Starships. Mais la FAA, l'administration américaine qui accorde des licences de vol, pour l'instant, refuse de lui donner son feu vert.
Et pour quelle raison?
En fait, il y a un vrai risque pour les populations, même si la population de Boca Chica est pas très importante, mais il y a un vrai risque. Récemment, certains experts estimaient que si jamais cette fusée au décollage explosait, l'explosion serait l'équivalente de celle du port de Beyrouth en août 2020.
Est-ce qu'il y a un calendrier?
Oui, évidemment, il y a un calendrier. La FAA s'est donné jusqu'au 28 février pour donner son rapport. Après, s'ouvrira une fenêtre de tir de quelques jours où Musk pourra en profiter. Sinon, les choses sont reportées quasiment mois après mois, c'est-à-dire fin mars et fin avril.
On va pas attendre le lancement ici, Bruno. Je te propose de rentrer au studio. Maintenant qu'on a vu la bête, il est temps de vous expliquer pourquoi tout le monde va suivre ce décollage de très, très, très près. On est de retour à Paris et j'ai demandé à Frédéric Filloux, le chroniqueur tech et espace de l'Express, de se joindre à nous. Salut Frédéric.
Salut.
Avec Bruno, on rentre tout juste de Boca Chica, de Starbase, la base d'Elon Musk. On a vu Starship, elle est très impressionnante. Elon Musk a des objectifs très précis pour cette méga fusée.
En fait, il a 3 objectifs. Il y a un objectif commercial, un objectif stratégique et un objectif qui est plus du domaine de la science-fiction. Si on prend d'abord l'objectif commercial, le concept est très simple. Il s'agit de tuer le marché du lancement des satellites en faisant s'effondrer les prix de la mise en orbite. Là, il faut simplement parler un peu chiffres. Je ne vais pas vous assommer de chiffres, mais je vais en donner quelques-uns quand même. Dans les années 90-2000, le prix d'un kilogramme mis en orbite par la navette spatiale était de 55 000 $ environ. Avec Ariane 5, on est tombé, par exemple, à 10 000-15 000 $ le kilo mis en orbite. Avec Ariane 6, dont on parlera tout à l'heure, et avec Falcon 9, on est de l'ordre de 5 000. Et avec le Starship, Musk propose de faire tomber ce prix à 18 $ le kilo mis en orbite. Même si il se trompe, ou il raconte des cracks, parce que ça lui arrive quand même assez souvent, d'un facteur de 10, on sera sur, par exemple, 200 $ le kilo, ce qui explosera littéralement le marché des lanceurs de satellites.
Donc Starship vise à devenir le poids lourd low cost de l'espace.
Alors il va d'abord transporter des satellites, ça c'est certain. Il va commencer en fait par transporter les propres satellites de la galaxie Starlink. La galaxie Starlink, vous en avez parlé je crois dans un épisode précédent, ce sont 42 000 satellites de télécommunications qui devraient apporter de l'internet dans les pays qui sont mal connectés. Le problème c'est qu'il faut avoir une cadence de tir extrêmement importante. Alors jusqu'à maintenant, depuis que le projet Starlink a été lancé, il a été initié en 2015, il y a eu environ 1900 satellites qui ont été lancés, ce qui ne permet pas de faire fonctionner commercialement le service. Il va falloir considérablement augmenter la cadence des tirs. En gros, il faudrait que Musk soit en mesure d'en lancer plutôt 800 par an. D'où l'objet du Starship, qui a une capacité d'emport de 100 tonnes, contre 20 tonnes à peu près pour les fusées aujourd'hui. Et l'idée, c'est qu'il gave littéralement la soute de son Starship avec ses propres satellites pour les déployer en orbite.
Les constellations de satellites, tu l'as dit Frédéric, on y avait consacré un épisode de La Loupe. Je vais aller chercher l'archive dans l'armoire. Voilà, je l'ai trouvé. Notre journaliste Emmanuel Botta nous résumait l'enjeu de ces futurs réseaux de milliers de satellites.
C'est l'équivalent des pylônes électriques d'il y a 80 ans qu'on voit encore parfois dans les campagnes. C'est l'équivalent aussi effectivement des tuyaux qu'on passe sous la mer pour apporter l'internet, sauf que voilà, c'est une super infrastructure mais spatiale.
Et celui qui maîtrise l'infrastructure,
comme toujours, maîtrise le reste. C'est ce qu'on dit toujours avec la ruée vers l'or, c'est que ceux qui ont fait fortune, c'est pas tellement ceux qui ont cherché l'or, c'est ceux qui ont vendu des pelles et des sacs de jute.
J'aime bien cette image, effectivement, de la pelle et des sacs. Mais pour Musk, l'objectif final, c'est bien la maîtrise du lancement en orbite basse. C'est son objectif majeur, avec une mentalité très, très américaine et très space cowboy. C'est premier arrivé, premier servir. Une fois qu'il aura l'outil, à savoir son Starship, eh ben, il estime qu'il trouvera tout seul, comme un grand, les usages. C'est un peu dingue de penser comme ça. Musk, il n'a pas vocation à balancer pendant des décennies des boîtes de conserve avec des panneaux solaires pour faire sa constellation. Il a d'autres, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres ambitions. D'abord, il pourra envoyer de gros satellites, notamment ceux des militaires, le Pentagone étant un de ses clients privilégiés. Mais il pourra aussi envoyer de gros instruments scientifiques, à l'instar du successeur du James Webb télescope, par exemple. Puis il va inventer de nouvelles choses, comme aller exploiter des astéroïdes pour leurs minerais précieux. Et puis il y a quelque chose qui fait beaucoup rêver les scientifiques, même si ça n'existe pas encore en termes de projets très arrêtés, c'est l'idée de mettre en place autour de la Terre un réseau de centrales solaires orbitales. C'est l'idée qu'on récupérerait les rayons du Soleil, l'énergie du Soleil arriverait sur des stations qui se trouveraient autour de la Terre, et puis cette énergie serait rebasculée à Terre. Voilà, c'est le genre de choses que le Starship pourrait faire.
Donc ce vaisseau spatial géant imaginé par Elon Musk est multi-possibilité, comme tu nous expliques, Bruno. Frédéric, tu parlais de plusieurs objectifs. Starship doit aussi emmener des humains dans l'espace.
Oui, alors ça, c'est la dimension science-fiction. Mmh. Alors, à terme, il y a l'objectif martien, c'est-à-dire que le grand dessin, la grande idée d'Elon Musk, c'est effectivement de coloniser Mars. Il veut changer littéralement le climat sur Mars pour faire en sorte que, comme il dit, l'espèce humaine soit multiplanétaire. C'est son grand trip.
When do you think SpaceX will land a human being on Mars?
Best case is about 5 years. Worst case, 10 years.
Lui, il espère que d'ici 5 ans, il sera en mesure d'envoyer des astronautes sur Mars, ce qui est extrêmement compliqué, extrêmement challenging, parce qu'on parle quand même d'un voyage d'un an. On sait, avec les expériences qui ont été menées sur l'ISS, que un an dans l'espace, c'est extrêmement drainant pour les astronautes qui n'en ressortent pas indemnes. Donc, il faudra ajouter à ça un long séjour en isolement sur Mars. Donc, il y a énormément de difficultés. Et puis, il y a naturellement des difficultés logistiques parce que une fois arrivé sur Mars, la fusée Starship aura épuisé son carburant et il faudra qu'on ait entreposé sur place des réserves de carburant qu'il faudra transférer. Ce sera d'une extrême complexité. Et après, en fait, Musk a dans l'idée de fabriquer le propre carburant de ces fusées sur Mars. Et même avant ça, il a l'intention de le fabriquer sur la Lune, puisqu'avant Mars, il y a quand même la Lune, puisque SpaceX a remporté un contrat de l'atterrisseur lunaire avec sa fusée Starship. Alors là, pour le coup, ça ressemblera vraiment à la fusée de Tintin, puisque la fusée se posera à la verticale sur la Lune. Il y aura une échelle qui descendra, et puis les petits bonshommes descendront pour marcher sur la Lune avec des véhicules, etc.
Donc Elon Musk a toujours un coup d'avance, il veut toujours être le premier, mais il n'est pas le seul à viser la Lune. Les méga-fusées concurrentes sont prêtes à décoller, ou presque.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Frédéric, il y a une anecdote qui est très connue à propos d'Elon Musk et de ses projets spatiaux. Est-ce que tu peux nous la raconter ?
Oh bah oui, cette anecdote, elle a trait à l'incroyable arrogance d'Elon Musk. En 2006, il y avait une réunion à Washington. Il avait devant lui tout l'aéropage du spatial commercial, les opérateurs de satellites, les lanceurs, etc. Et il leur a dit tout de go, voilà, je m'appelle Elon Musk et dans 5 ans, vous êtes mort. Tout le monde a bien sûr ricané et aujourd'hui tout le monde se mord les doigts d'avoir ricané parce que il a quand même réussi quelque chose d'absolument incroyable avec sa série de fusées Falcon. Il a révolutionné complètement le secteur avec son système de fusées réutilisables dans lequel personne ne croyait.
Et aujourd'hui donc, quand Elon Musk annonce qu'il va réussir à lancer son poids lourd de l'espace, non seulement ses concurrents ne rigolent plus, mais ils le croient et ils tentent de le suivre.
Absolument, faut juste remettre ça un peu dans une perspective historique. Ça fait quand même un demi-siècle. qu'on n'a pas construit de super fusée. Et là, en 2022, quand même, trois projets sont en cours, voire en concurrence. Et ce qui est fou avec les Américains, c'est qu'ils sont en train de se payer le luxe d'en avoir non pas un, mais deux mastodontes de l'espace. Parce que l'autre projet concurrent, le plus direct, le plus avancé, c'est le projet SLS, Space Launch System, commandé par la NASA à la société Boeing. SLS, c'est la fusée officielle du programme Artemis, de retour d'un, ou plutôt d'une américaine sans doute, à la surface de la Lune et qui est prévue pour 2025. C'est une fusée complètement classique parce que c'est le successeur de la navette spatiale qui a arrêté de voler en 2011. Quand on dit successeur, c'est qu'elle a récupéré tous les éléments de la navette. Son premier étage, ça servira de corps à ce lanceur. Souviens-toi des boosters qui se trouvaient sur le côté, ben pareil, on les récupère et on fait. Souviens-toi aussi des moteurs de la navette. Et ben ces moteurs de navette sont récupérés aussi et puis on fait une fusée neuve avec du vieux. Le tout petit problème, c'est que ce fameux SLS devait voler en 2017 et qu'il n'a cessé d'accumuler un certain nombre de retards. Il a explosé tous les budgets. Il a même été menacé de disparition par le Congrès à un moment. Ce SLS n'a jamais été arrêté et là, on en est sûr. Son premier vol se fera au début de l'année qui vient, courant 2022. Il pourrait peut-être même se faire avant le Starship.
Parmi les concurrents d'Elon Musk dans l'espace, il y a un autre milliardaire américain bien connu, Jeff Bezos. Le fondateur d'Amazon a lui aussi un projet de constellation de satellites, on en a déjà parlé ici. Et cette année, il doit également tester sa propre superfusée.
We're going to be launching, you know, Blue Origin developed payloads, lunar landers and human space flight.
The scale of what's coming with New Glenn is just unbelievable.
Oui, voilà, elle s'appelle le New Glenn. Bezos possède déjà le New Shepard, qui lui permet de faire du tourisme spatial, c'est ce qu'il a fait l'année dernière. Mais lui aussi, il est comme Musk, il a les mêmes rêves, il a les mêmes rêves de constellation. Et il risque pas de se créer une constellation Amazon en demandant à Elon Musk de mettre sa constellation en orbite. Il va financer son New Glenn sur ses fonds propres. Il essaye d'avancer vite. Mais cette fusée géante, sa fusée géante, devait voler en 2021, le vol inaugural a été repoussé en 2022 et moi je suis pas très optimiste là-dessus.
It's about having a vision that's way bigger than all of us.
Sur ce créneau des méga lanceurs, pour résumer, on a donc d'un côté les deux hommes les plus riches du monde qui se font concurrence, de l'autre les États-Unis avec la NASA. Comment les autres grandes puissances spatiales réagissent-elles, Frédéric ?
Alors effectivement, bah, l'autre grande puissance spatiale, c'est évidemment l'Europe avec le programme Ariane. Là aussi, ce sera 2022, sera une année absolument décisive pour Ariane avec le projet Ariane 6. Ariane 6, c'est une fusée plus puissante, totalement polyvalente, c'est-à-dire qu'elle sera en mesure de lancer des satellites en orbite basse pour les constellations, des gros satellites de télécommunications qu'on dépose en orbite géostationnaire. Les gens d'Ariane Espace rêvent de pouvoir faire des vols habités avec cette fusée qui sera donc incroyablement polyvalente. Le premier vol de qualification, ce qu'on appelle, qui prouvera la validité de la fusée, n'interviendra pas malheureusement avant la fin de cette année 2022. Il y a donc deux années de retard. La grande question de tout ça, c'est que pour les Européens et pour les autres lanceurs de satellites dans le monde, c'est que les équations actuelles économiques parient sur l'échec du Starship. C'est-à-dire que si le Starship n'est pas en mesure de délivrer toutes ses promesses, là, pour le coup, les Européens se trouveront en très bonne posture pour remporter des marchés de lancement de satellites, que ce soit des satellites civils, des satellites commerciaux, des satellites institutionnels ou militaires. Par contre, si effectivement Starship parvient à complètement briser toute cette économie et en faisant s'effondrer les prix de 80%, là, ce sera extrêmement problématique pour les Européens.
Est-ce qu'il y a d'autres pays dans le monde qui développent des lanceurs XXL capables de rivaliser avec Starship ou avec les autres fusées américaines ?
Écoute, historiquement, le rival, c'est la Russie, mais il y a bien longtemps que la Russie n'a plus les moyens de ses ambitions. Et là, ça fait quoi ? Ça fait 20 ans qu'ils sont en train de développer leurs lanceurs lourds. Je crois que c'est le 27 décembre dernier, elle a fait un essai et elle a fonctionné quelque chose comme 2 secondes. Donc non, les Russes sont loin. En réalité, les Américains, dans le spatial, n'ont qu'un seul vrai concurrent, c'est la Chine. La Chine a refait tout le programme spatial depuis 75 ans en vitesse accélérée. Du vol habité, une station spatiale ou encore un programme lunaire. Donc ils ont aussi un projet de lanceur lourd. C'est ce qu'on appelle la fusée Longue Marche 9. Qui elle aussi sera un géant comme le Starship de 100 mètres de haut, mais ça devrait prendre un peu de temps, mais c'est une puissance qui a les moyens de le faire et ils iront au bout de leurs ambitions. Les Américains ne seraient jamais repartis sur la Lune si les Chinois n'avaient pas leur propre programme. L'année dernière, la Chine est quand même la puissance spatiale qui a fait le plus de tirs dans le monde. Il y a une petite anecdote qui se raconte en ce moment dans le milieu spatial, qui est assez révélatrice. Les Américains n'ont qu'une peur, c'est de voir un taïkonaute poser le pied sur la Lune un jour, avant eux, puis de revenir sur Terre avec le dernier drapeau laissé par la mission Apollo, en leur disant « Tenez, je crois que vous avez oublié quelque chose là-haut ».
On verra si cette anecdote devient réalité et on fera le bilan en fin d'année pour voir si 2022 s'est avéré si décisif pour la conquête de l'espace. Vous viendrez nous donner des nouvelles de Starship, New Glenn et des autres, Bruno et Frédéric. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci.
Bruno Cotte et Frédéric Filloux, si l'espace vous passionne, je vous conseille d'aller lire leurs articles et leurs chroniques sur le site de L'Express. Il est accessible sur abonnement, le premier mois est offert en ce moment. Et en attendant d'être diffusé sur Mars, La Loupe, elle, est disponible sur toutes les plateformes de podcast de la Terre, que ce soit Apple Podcasts, Spotify ou par exemple Podcast Addict. Vous pouvez nous suivre pour être sûr de ne rater aucun épisode. Celui-là a été fabriqué avec Charlotte Baris, Margot Lanuzel, Mathias Pengili, Lison Verrier et Théo Boulanger. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à la loupe.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
This season, prepare for every season with the Allbirds Mizzle Collection. These shoes were made for adventures in rain, shine, mist, or snow. Go to allbirds.com and use code FRESHSOCKS for a free pair of socks with your purchase.